RCN.
Écoutez le monde qui bouge.
Il était une fois, l'émission qui parle des comédiens et comédiennes, leur vie, leur histoire, leur filmographie, leur carrière.
Moteur.
Thierry Genovese décrypte tout, chaque mercredi à 19h, sur RCN.
Bonsoir à tous, cher public. On repart pour de nouvelles aventures sur la carrière énorme de Monsieur Clint Eastwood. Nous parlons aujourd'hui de la suite du film Bronco Billy et un nouveau film en préparation arrive au nom de Firefox, l'arme absolue. Ce coup-ci, comme Clint a un nouveau chef opérateur, il va orienter ses images sur une texture plus riche. Des gros plans, des plans généraux, des plans de coupe aléatoires, des plans en amorce rapprochés mais toujours efficaces. Cette technique adoptée depuis un certain temps par Clint nous montre son talent de réalisateur qui aime la technique depuis le début. Mais tous ces plans ralentissent l'équipe, mais ils compensaient par 75% des cas par une seule prise avec l'acteur. Quand il joue, il est derrière la caméra, regarde l'acteur et lui donne la réplique. Mais des fois, cela s'avérait compliqué pour Clint car il mettait toute son énergie pour les autres acteurs et quand la caméra revenait sur lui, toute son énergie est épuisée. Le chef opérateur s'occupait du pré-éclairage sur tous les plateaux avant l'arrivée du réalisateur afin que celui-ci puisse filmer dans toutes les directions sans déplacer les lampes. Comme il utilisait sur Bronco Billy sous le chapiteau du cirque, il pouvait tourner jusqu'à 60 plans par jour. Bronco Billy fut le film le plus abouti artistiquement. Le tournage était prévu en 10 semaines, Clint arriva à 6 semaines et les studios se frottaient les mains. Encore une fois, Clint était un réalisateur rapide et économe. Le budget de 5 millions de dollars fut encore un budget très bas pour ce genre de film. Mais comme d'habitude, sans le salaire de Clint. Ce fut Snuff Garrett qui s'occupait de la bande originale pendant les vacances d'été 1979 qu'il passait à Vancouver chaque année. Il s'agissait de vacances et de travail mélangé. Il invitait le gratin dans sa propriété avec Clint. Bien sûr, ils travaillèrent de temps à autre à l'avancement de la bande originale. Snuff Garrett propose à un chanteur au nom de Mel Haggard de chanter une des chansons, mais propose aussi à Clint d'en chanter une. Clint fut d'accord. Garrett savait que Clint n'était pas une grande voix, mais qui était vraiment chanteur pour celui qui ne chantait pas souvent. On a travaillé ensemble et on s'était bien marré, et il ne m'a jamais dit un mot de travers comme certains racontaient souvent quand ils ne s'entendaient pas avec lui. C'est vrai qu'il avait un caractère pas facile, mais il a toujours su ce qu'il voulait vraiment. Barum Buddies, ou les copains Barroso, était la chanson chantée par Clint et Mel Haggard. Vous allez entendre la chanson interprétée par Snuff Garrett, Barum Buddies, en 1979, interprétée par Clint et Mel Haggard.
I wanna sing till the feeling gets right.
Well, let's harmonize, we'll be dynamite.
I yodel the high notes, I've done it for years.
Good deal, old buddy, and I'll pour the beers.
There's always some lady alone at the bar.
Yeah, and you always let her know just who you are.
I know a couple gals that we can call. Damn, they'll shake the picture right off of your wall.
We're barroom buddies, and that's the best kind. Nobody fools with a buddy of mine.
I laugh when you're happy,
and I cry when you're blue.
We're barroom buddies, and we're doing fine.
So pour me another, we got nothing but time.
Old chug-a-lug-a-luggin', barroom buddy of mine.
Bartender's trying to turn out the lights.
Well, maybe it is time we call it a night.
Hell, we'll wake up the roosters if we drank them real slow.
Well, let's have a double and a six-pack to go. We're barroom buddies, and that's the best kind. Nobody fools with a buddy of mine.
I laugh when you're happy, and I cry when you're blue.
We're barroom buddies, and we're doing fine.
So pour me another, we got nothing but time.
Oh, chug-a-lug-a-luggin', barroom buddy of mine.
Yeah, we're skirt chasing,
tail kicking,
guitar picking,
pool hustling.
Oh, chug-a-lug-a-luggin', old barroom buddy of mine.
Comme les chansons du film marchent à merveille, Clint et Garrett vont fonder le label Viva Records ensemble. Clint gardait le silence et Garrett gérait le lancement des chansons. Garrett s'occupera de la bande originale du film Doux, dur et dingue. Rappelez-vous, on en a parlé avant dans une autre émission, la BO du film Ça va cogner et de Honky Tonk Man. Tous ces films auront des musiques country au programme. Puis malheureusement, Garrett fit une crise cardiaque des années plus tard et il vendit les parts de la société. Et Clint fit de même, et ils vendirent le bébé à notre feu chanteuse de rock, blues, pop and soul music, Miss Tina Turner. La musique fut un plus pour les bénéfices du film Bronco Billy. On lança le film dans 1316 salles de cinéma dans toutes les régions américaines. Pour le budget publicitaire, on dépensera 2,65 milliards de dollars. Mais le film démarre mollement, pas d'excuses là, mais sur que la comédie pure n'est pas vraiment le credo habituel de Clint, donc on s'inquiète quand même, a-t-on vraiment bien jugé le scénario? Clint va entrer dans une colère noire, il ne comprend pas qu'à chaque fois, il faut qu'il prenne les rênes pour s'occuper de la publicité pour que son film marche. Certains cadres ne font pas leur travail, et il y avait toujours une zone d'ombre entre les studios et Clint. La colère noire qu'avait poussé à bout Clint obligea le studio à revoir leur copie et d'accroître le pouvoir publicitaire de Clint sur le studio Warner. Bronco Billy est un film plein de charme et d'énergie, mais il manque quelque chose. Le film tient plus de la curiosité attrayante qu'autre chose. On retiendra les pitreries intéressantes de Clint sur ce film qui vont amuser la galerie. Mais la star fait beaucoup trop de clins d'œil au cinéma, si bien que le personnage perd de sa crédibilité. Il y a aussi les habituels Clintismes, des bagarres, il défend Sandra d'une agression sexuelle qu'elle manque de subir pour la quatrième fois et Clint n'oublie pas de nous montrer, comme à son habitude, sa veine qui sort quand il bouillonne à l'intérieur. Entre ses mains, le personnage de Sandra Locke est plat et ennuyeux, on se demande ce qu'elle fait dans ce tableau qui esquisse son jeu médiocre. La Warner fit bonne figure, mais le film ne rapporta que 18 millions de dollars et Clint se tiendra éloigné de la comédie pendant 5 ans, où il réendossera le rôle d'un cow-boy, nous le verrons plus tard. En attendant, Doux, dur et dingue rapporte un maximum, qu'il aurait cru, un orang-outan avec un homme qui arrive à faire un tel score. Kronzberg, qui avait écrit le film, est évincé, on fait appel à un autre pour la suite au nom de Stanford Sherman, puisque Doux, dur et dingue a une suite. Comme Kronzberg, scénariste du premier volet, a signé un contrat pour les deux versions, attaque d'office Malpasso, pour plagiat du nouveau projet au nom de Ça va cogner. Le procès entre la star et le scénariste Kronzberg commence mal, le juge demande un autographe à Clint en préambule. Mais le juge tranche en disant à Clint qu'il n'a pas le monopole d'histoire de singe et qu'il doit céder à cet arrangement déjà signé avec le scénariste. Nous ne parlerons pas de Ça va cogner qui est la suite de Doux, dur et dingue, car c'est le ratage le plus important de Clint et sa société Malpasso. Il ne rapportera que 10 millions de dollars, c'est un fiasco, et ce film fut d'une sévérité et un sonnera le glas de Clint alias Philobedo. Vous allez entendre la BO de Ça va cogner composée par Ray Charles, Clint Eastwood, Glen Campbell, Steve Stafford, Fats Domino et John Durrell en 1981, interprétée par Glen Campbell.
It's hard for a backstreet affair to be easy. For each hour of happiness, there's 2 hours of pain. We meet in the shadows, because all that matters is spending the night
with you once again. You leave with a promise, you'll call me tomorrow, but I never know when the next time will be. And each time you leave me, I can't help but wonder, was tonight the last night for you and for me? Any which way you can, just love me any which way you can. My love's not the choking kind. You've got your life, and I've got mine. So can never be free. Oh, darling, I'll understand.
À Malpaso, des conflits surviennent au tribunal pour cette affaire, mais à l'intérieur aussi. Des gens pensaient que Sandra Locke était une personne de mauvais augure pour Clint de 1979 à 1980. Locke renvoie une image froide des calculatrices et ceux qui savaient ce qui était arrivé à toutes les démissions depuis qu'elle était dans sa vie, la voix très directrice auprès de Clint. Les gens pensaient que c'était juste un passage de la mauvaise période de Clint et qu'il rejetait ses fautes sur les autres. Le grand perdant de l'époque, c'était James Fargo, réalisateur de L'Inspecteur ne renonce jamais et de Doux dur et dingue, qui avait travaillé pour un salaire de misère sur les deux films. Mais si on restait loyal avec Clint, on travaillait sur tous ses projets. On avait la garantie de travailler longtemps avec lui. On n'avait pas autant d'argent qu'avaient d'autres, mais on était sûr de travailler à long terme. L'énorme erreur de Fargo, c'est d'avoir demandé à Clint de toucher des bénéfices sur Doux dur et dingue. Fargo ne retravaillera plus jamais pour Malpaso. Après l'échec de Savaconier, Clint fit un important ménage à Malpaso. Il congédia le chef opérateur Rexford Metz, qui avait travaillé sur Doux dur et dingue et L'épreuve de force. Il était en train de superviser des effets spéciaux sur un des deux films, quand Clint le congédia pour non-respect de plan en hélicoptère, discutant avec insistance sa façon de voir les choses. Mais Metz est persuadé que parce qu'il avait un jour joué au tennis avec Clint, Sandra et sa femme en double, et qu'ils ont gagné le match contre Clint, et sa femme a raconté partout qu'il les avait battus en double à tout le monde. Metz dira plus tard que sa femme aurait dû se taire, plus tard Clint l'avait entendu dire, et que ça n'avait pas arrangé les choses pour la suite de son travail avec Malpaso. Le nouveau chef opérateur David Worth, qui fit deux films, n'en fit que deux et ne fut plus repris. Pourquoi? Personne ne le sut. Robert Daley, travaillant depuis plus de 20 ans avec Clint, fut aussi congédié manu militari. La cause ne fut jamais tellement définie. On ne saura vraiment pas du tout. Mais tout l'entourage qui travaillait assez souvent avec pour Malpaso savait que Daley n'aimait pas Sandra Locke. Ils étaient du côté de Maggie, son ex-femme. Il se sentait mal avec les autres femmes que Clint fréquentait. Il trouvait Clint injuste. Il n'appréciait pas les économies de bout de chandelle sur les salaires et les budgets qui étaient pratiqués sur les gens pour qu'ils acceptent des services supplémentaires gratuits. Il pensait que cela n'était pas nécessaire et futile quand on savait que la fortune colossale de Clint est de Malpaso. Et puis Daley commençait aussi à s'octroyer des points sur les bénéfices et ça Clint n'appréciait pas du tout, disaient certains. Fritz Mainz, le remplaçant d'Irving Leonard, son ancien homme d'affaires, était joyeux, déconneur et courait les filles comme Clint, tandis que Daley était casanier et après son travail rentrait voir sa femme et ça a fait pencher la balance car Clint aimait les gens de son acabit. Mais pour dégoûter certains qui voulaient un peu trop gérer les affaires de Malpaso, Clint optait pour la technique de fermer les bureaux de Malpaso pendant un temps. Comme ça, personne ne venait le déranger, ou s'il devait licencier quelqu'un, il envoyait Mainz à sa place. Le mauvais côté de Clint, c'est qu'il n'était pas franc pour dire en face quelque chose avec des personnes qui le méritaient, et ceux qui ne méritaient pas en prenaient plein la figure alors qu'ils avaient été juste dans leur action. Il était très ambivalent et incernable. Pour son prochain film, Firefox, l'arme absolue, la menace d'une grève et de la Directors Guild of America menaça le film. Vous allez entendre la bande originale de Firefox, l'arme absolue, composée par Maurice Jarre, le père de Jean-Michel Jarre, en 1981. Les syndicats revendiquaient des droits légitimes, ils voulaient des augmentations de salaire, des dividendes plus importants sur les scénarios. La pagaille dans les studios fut mémorable. À l'époque, les studios avaient de sérieux revers de médaille quand il s'agissait de prendre des décisions à l'encontre des prestataires qui travaillaient soit salariés pour un film ou indépendants qui se raccrochaient des productions en sous-traitance. Le décalage entre les décisions prises sur le moment de la préparation, du filmage et de la post-production ne faisait pas toujours écho aux décisions finales. Pour Clint, pas de souci, il traversait les studios de la Warner pour aller à son bureau sans encombre, puisqu'il était indépendant avec sa propre société Malpasso Productions, mais il y avait des prestataires qui subissaient le même sort quand ils ne travaillaient pas pour Malpasso. Ils étaient obligés de faire grève à cause d'autres productions, car Clint ne donnait pas de travail, des fois pendant un an. Le temps qu'un autre film se prépare, en attendant, il fallait bien manger et trouver du travail avec d'autres productions. Quant au producteur de Malpasso Productions, Bob Daley, son nom disparut des films de Clint. Les gens trouvaient Daley merveilleux, classe, extrêmement intelligent, dévasté par la décision de Clint qui affligea Daley, qui apprit qu'il n'y avait pas que lui dans le train des licenciements abusifs. Certains se souviennent de l'une de ses observations acérées au sujet de Clint. Si on réunissait qui se sont fait avoir par Clint, on pourrait remplir le Los Angeles Memorial Coliseum. Pourtant, de l'autre côté, la presse disait qu'il était temps de prendre très au sérieux le travail de Clint et de le considérer, non pas comme un phénomène populiste, mais comme un des réalisateurs les plus sincères, influents et personnels de notre époque. La Warner ne voyait pas les choses autrement, surtout que John Wayne venait de décéder en 1979, ayant fini son dernier film, Le Dernier des Géants, et nous allons justement lui rendre hommage par ce dernier hommage de la musique. Vous allez entendre la bande originale du Dernier des Géants composée par Elmer Bernstein en 1976. Cher public, la semaine prochaine, on retrouve Clint dans un nouveau chapitre, Clint l'Indestructible de 1980 à 1984. N'oubliez pas d'aller écouter en podcast l'émission si vous l'avez prise en cours. Merci à tous et très belle semaine.
Il était une fois, l'émission qui parle des comédiens et comédiennes, leur vie, leur histoire, leur filmographie. Leur carrière.
Moteur.
Thierry Genovese décrypte tout, chaque mercredi à 19h, sur RCN. Retrouvez ce moment en podcast replay sur rcnradio.info et sur vos smartphones.